Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mais oui, il est 6h. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans votre nouveau rendez-vous d'actu local. Les jours raccourcissent, il fait gris, il fait froid. Mais vous avez choisi la chaleur de nos voix. Mais quelle bonne idée!
Et tout de suite, le flash d'Héloïse.
Oui, 200 missiles ont plu sur Israël hier soir. Des frappes de l'Iran présentées comme une réponse à la mort du chef du Hezbollah libanais. Le bilan humain est léger, comprenant tout de même plusieurs morts. Le bilan matériel, lui, est plus lourd. Des infrastructures industrielles et des bases aériennes ont été touchées. Emmanuel Macron l'a déclaré hier à l'issue d'un conseil de défense. Il condamne avec la plus grande fermeté les attaques de l'Iran contre Israël. On reparle d'ailleurs du Hezbollah tout à l'heure avec la chronique d'Anthony. Après les candidats à la présidence américaine, leurs bras droits se sont affrontés lors d'un unique débat télévisé. Le débat entre Tim Walz et James David Vance, respectivement colistiers de Kamala Harris et de Donald Trump, a été plutôt courtois, contrastant avec la campagne de la démocrate et du républicain marquée par une vigoureuse violence. Immigration, avortement, les thèmes clés de la campagne ont été abordés. Ce débat pourrait peser dans la balance des élections. Donald Trump ayant refusé de rencontrer de nouveau son imposante politique, il pourrait être le dernier de la campagne. Kermesse et fest-noz au BAM samedi dernier. L'événement organisé par le planning familial d'Ille-et-Vilaine a eu lieu pour célébrer la journée mondiale pour le droit à l'avortement. Bleuen Aulnet, coprésidente du planning familial 35, nous explique pourquoi il est important encore aujourd'hui de continuer à défendre un tel droit.
La question du droit à l'avortement, c'est quand même une des questions sur lesquelles s'est créé le planning familial. Et donc on voit bien que même si en France, on a l'impression que c'est un droit qui est acquis. On a bien vu avec les débats politiques et la question de la constitutionnalisation de l'IVG l'année dernière, la montée de l'extrême droite, etc., que c'est quand même un droit qui peut rapidement être remis en question. Et donc nous, on trouve que c'est important de toujours faire quelque chose pour cette journée et de montrer que c'est encore un vrai sujet, un droit qu'il faut défendre. Au planning familial 35, on a une caisse pour les avortements en délai dépassé, qui a encore de nombreuses personnes qui se retrouvent dans des situations où elles ne peuvent plus avorter en France. Et donc elles sont obligées d'aller à l'étranger. Et aller à l'étranger pour avorter, ça coûte entre 1500 et 1000 et 2500 euros. Donc c'est une sacrée somme. Donc depuis quelques années, on propose cette cagnotte.
À propos, le planning familial de notre département propose ce mois-ci un questionnaire destiné aux femmes ayant avorté depuis 2022. Le but, connaître leur parcours, ses freins et ses leviers. Pour plus d'informations sur cette enquête, rendez-vous sur le site du planning familial 35. Tornade de réaction hier après la déclaration de politique générale de Michel Barnier. Les trois grands blocs politiques de l'Assemblée n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement. La présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, estime que le gouvernement Barnier n'est pas légitime. Elle a promis de censurer le gouvernement. De son côté, le Rassemblement national, conscient de son poids dans l'éventuelle motion de censure, exige une nouvelle loi immigration. Enfin, la droite républicaine a notamment évoqué la mauvaise gestion de l'argent public. Suite à ce discours, la France insoumise a déposé une proposition de destitution d'Emmanuel Macron. Cette procédure vient tout juste d'être rejetée par la commission des lois à une très large majorité. D'ailleurs, dans son discours de politique générale hier, Michel Barnier a évoqué un sujet qui n'est pas passé sous les radars, Cyriane.
En effet, Héloïse, le Premier ministre a dit, au moment d'évoquer les enjeux sécuritaires, souhaiter une généralisation de la méthode expérimentée pendant les Jeux Olympiques. Selon les informations de France Info, le gouvernement réfléchit à développer l'utilisation de la vidéosurveillance algorithmique, la VSA. En fait, il s'agit d'un logiciel ajouté sur les caméras classiques. Et cette technologie crée une base de données en analysant les vidéos enregistrées par les caméras en permanence, décrète à partir de ça quels sont les signes avant-coureurs d'un potentiel événement suspect, puis après avoir été bien entraîné, appelle automatiquement les forces de l'ordre, des agents de sécurité ou encore les pompiers, si elle repère un événement considéré anormal. En gros, ça classe en deux catégories nos actions, normales ou pas normales. Cette automatisation permet une surveillance de masse beaucoup plus simple, vu que y a plus besoin d'humains pour visionner pendant des heures ce qu'enregistrent les caméras en direct. Ce dispositif a été testé non seulement pendant les Jeux Olympiques, mais aussi pour Roland-Garros ou encore des gros concerts comme Taylor Swift ou les Black Eyed Peas à la Paris Défense Arena. À la base, le ministère de l'Intérieur a assuré que l'expérimentation n'allait pas dépasser les Jeux. Pourtant, le texte de loi qui encadre cet usage prévoit bien une expérimentation jusqu'à mars 2025. On doit attendre le rapport d'un comité d'évaluation promis d'ici fin décembre pour que Matignon précise sa décision. Sur X, ex-Twitter, Katia Roux, chargée de plaidoyer à Amnesty France, a réagi en écrivant « On ne connaît pas les conclusions de l'évaluation du dispositif déployé pendant les JO 2024, on connaît les risques de la vidéosurveillance algorithmique en matière de droits fondamentaux, et pourtant, on parle déjà de pérenniser l'usage de ces technologies de surveillance. » En attendant, à Saint-Grégoire, commune parmi les plus riches d'Ille-et-Vilaine et située au nord de Rennes, on s'équipe. En effet, la commune de 10 000 habitants souhaite arriver dans les 18 prochains mois à 62 caméras, pour l'instant sans vidéosurveillance algorithmique, sur son territoire. Et ce, en plus des patrouilles de police municipale armées qui effectuent déjà des rondes jours et nuits dans la commune. Comme quoi, de Paris à Saint-Grégoire, Michel Barnier is watching you.
Merci Cyrienne. Et oui, ça fait un peu peur, hein. Ça pourrait partir de travers tout ça. Mais tu sais ce qui ne peut pas se passer de travers ?
Non, je ne sais pas, Louise, dis-moi.
C'est la nuit du droit. En tout cas, on verra si c'est bien le cas demain soir au Parlement de Bretagne. L'événement a pour but de sensibiliser le public sur l'importance du droit dans la société. Rencontre avec de nombreux professionnels de justice, des policiers et gendarmes, conférences sur l'actualité judiciaire, représentation théâtrale immersive. Rendez-vous donc au Parlement de Bretagne dès 17h30. Avis aux amateurs et amatrices de musique du monde, le top départ du Grand Soufflet, c'est ce soir. Le festival de musique indo-bretonne sort encore une fois le grand jeu. Au programme, 100 événements à Rennes et plus de 70 autres partout en Ille-et-Vilaine. Et pour ouvrir les festivités, Sangam partage ce soir la scène du Tabor avec Sian Potok. Le festival aura lieu jusqu'au 12 octobre. Un autre festival commence aussi très bientôt, c'est le festival Maintenant. Et celui-ci, il a un lien très particulier avec l'université de Rennes 2 parce qu'il est né de la tête d'étudiants et étudiantes de la fac après une soirée concert au Tambour en 2001. C'est donc tout naturellement que Laure Offrette, responsable de l'association Electronica, nous parle des performances de Nicolas Bazoge qui auront lieu au Tambour les 10 et 11 octobre prochains dans le cadre du festival.
On va être face à une installation interactive, immersive, qui est proposée par Nicolas Bazoge, qui est un artiste français qui vit désormais près de la mer et qui a dans son cœur une attention particulière au monde marin, à l'océan, présentant des motifs lumineux avec un son spatialisé qu'il a réalisé lui-même. L'Université de Rennes 1 et l'Université de Rennes 2 à l'époque, en 2000, a soutenu la création de ce festival. On aime être au plus proche aussi des publics, leur proposer des installations qui entrent en phase avec leur quotidien. Il y a une affection évidemment pour ce partenariat, pour ce lieu aussi, la salle du Tambour, qui permet à la fois de conjuguer des installations artistiques, parfois c'est monumental, et la proposition de live en lien, de performance.
Le festival Maintenant, ce n'est pas maintenant, hein, mais ce sera bien du 8 au 13 octobre prochain. Et puis on ne peut pas ne pas vous en parler, l'émission Sortez les briquets est de retour sur les ondes de Syllab. Sortez les briquets, c'est un talk musical à écouter chaque mardi à 20h. Sa programmation met en avant des artistes femmes, non-binaires et trans. Pour son retour, la Meute organise une soirée aux Ateliers du Vent à partir de 19h. Au programme, un show du collectif burlesque et vilaine, un plateau radio et une programmation musicale mouvementée. L'entrée est à prix libre, alors n'hésitez pas à y faire un tour. C'est la fin de ce flash, mais ne partez pas tout de suite, on a des invités.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Demain a lieu au Jardin Moderne un concert pour célébrer les 60 ans du jumelage entre la ville de Rennes et la ville allemande d'Erlangen. Une belle occasion pour fêter l'Oktoberfest. Nos invités de ce soir sont là pour nous en dire plus, Cyriane.
Effectivement, ce soir j'ai face à moi Simon Le Tenturier. Vous êtes agent pour la ville et responsable du service international et Europe pour Rennes Métropole depuis mars 2024. Bonsoir.
Bonsoir.
Et en plus, parce que c'est mieux d'avoir deux invités quand même, j'ai face à moi Michel Adouard du Jardin Moderne, qui est directeur référent aux activités pour l'association. Association qui est là pour accompagner la création culturelle et plus particulièrement la création musicale. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc déjà, je vais commencer avec vous, Monsieur Adouard. Pour cette année au Jardin Moderne, c'est quoi à peu près la programmation de l'année? Est-ce qu'il y a des nouveautés, un thème ou une particularité?
Alors, au Jardin Moderne, la particularité, c'est que déjà, nous, c'est pas nous qui programmons. C'est les assos qu'on accueille et qu'on accompagne qui programment. Donc, comme tous les ans, on a différentes assos partenaires qui viennent organiser chez nous. Je pense à People à Pop, je pense à l'Epichikai, je veux dire, je pense à Doing It, je pense à différentes assos avec qui on travaille dans des esthétiques métal, rock, musique électronique, les collectifs électro. Donc on reste quand même sur notre ligne, à savoir on défend toutes les musiques et on accompagne les assos organisatrices de concerts. Après, on a toujours nos soirées qu'on organise et qu'on porte nous-mêmes, mais c'est quand même le projet du Jardin au départ. Ouais.
Ok. Et on a pu constater sur les flyers ou même sur le site un changement dans la direction artistique, dans l'esthétique du coup de vos supports de communication. Mm-hmm. Et vous avez opté pour un style un peu plus graffiti, art de rue. Est-ce que vous pouvez expliquer ce choix, s'il y a une raison particulière derrière?
Alors, il y a une raison particulière. Déjà, on est hyper content de travailler avec le studio Pollen depuis deux saisons sur notre création graphique. Et oui, là, vous n'êtes pas sans le savoir, on est dans une zone industrielle. Donc, il y a côté quand même, si est-ce qu'on est dans une ancienne usine Kodak, il y a ce bagage industriel qu'on porte et on avait envie d'un petit peu le remettre au centre de notre projet aussi, même graphiquement. Donc ça a été un petit peu la direction qu'on a choisie avec Pollen. Ouais.
Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que, je vais revenir un peu plus sur la soirée pour laquelle vous êtes là vous deux, pourquoi est-ce que le Jardin Moderne il a voulu organiser cet événement?
Alors nous, on est partenaire, après je vous laisserai peut-être la parole, mais on est partenaire de la ville de Rennes sur ce jumelage. Et il y a, en 2023, si je dis pas de bêtises, ou peut-être 2022, j'étais pas encore arrivé, donc vous m'excuserez si je donne pas les bonnes dates.
Vous êtes tout pardonné.
Mais il a été pensé un jumelage, mais avec un échange artistique avec la ville d'Erlangen, où un premier échange a été fait l'année dernière avec les groupes King's Mansion, groupe rennais qui est parti à Erlangen sur le Newcomer Festival. Et nous, on a reçu le groupe Heavy Mountain, groupe d'Erlangen, qui est venu passer une semaine à Rennes et que nous, on a accueilli sur une journée en répétition au Jardin Moderne. Donc ils ont pu travailler une journée au Jardin Moderne et avec le soir une répétition publique, donc qui est une sorte de filage public qu'on organise régulièrement le mercredi. Et c'est un petit peu comme ça que ça a commencé, en tout cas nous, notre partenariat avec sur ce projet-là. Et on était hyper contents déjà d'envoyer un groupe à Erlangen, un groupe que nous on soutient via l'accompagnement qu'on peut faire avec la pratique amateur à Rennes, mais aussi d'accueillir un groupe allemand. Et on est très content de le refaire cette année avec les groupes dont on va parler.
Et du coup, est-ce que pour revenir un peu sur la raison de cette soirée qui se passe demain, qui est gratuite et qui démarre à 18h30 au Jardin Moderne, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Simon Le Tenturier, pourquoi, un peu les raisons de ce jumelage historique entre Erlangen et Rennes?
Oui, alors... Il faut savoir que la ville de Rennes est jumelée avec une quinzaine de villes et de collectivités étrangères. Et le partenariat avec Erlangen, donc 60 ans cette année, c'est un des plus anciens. Historiquement, c'est le cadre du rapprochement entre la France et l'Allemagne suite à la Seconde Guerre mondiale et à la suite du traité de l'Élysée qui a été signé en 1963, dans l'objectif de rapprocher les citoyens et de construire la paix en Europe. Et donc c'est dans cette logique-là que les villes de Rennes et Erlangen ont signé cet accord de partenariat en mai 1964.
D'accord, c'est noté. Et du coup, la ville de Rennes, comme vous l'avez dit, c'est un très très vieux partenariat. Et qu'est-ce que c'est un peu l'implication de la ville de Rennes concrètement dans ce partenariat? Parce que j'ai pu lire, par exemple, que les deux villes, cette année, globalement, ont choisi la culture comme moyen d'expression de la citoyenneté européenne. Et même Natalia Perret, la maire, parle de créer une véritable interaction avec les habitants et les habitantes. Par quoi est-ce que ça se traduit concrètement? Qui est concerné? Comment ça se passe?
Nous, on considère à la ville de Rennes qu'un jumelage doit fonctionner sur deux axes. Un axe institutionnel qui est constitué des relations de collectivité à collectivité sur des thématiques d'intérêt mutuel, et un axe citoyen. L'idée, c'est d'impliquer les habitants dans le partenariat et d'impliquer un maximum d'habitants. Et ça peut prendre différentes formes. En l'occurrence, dans le cadre d'Erlangen, il y a des échanges scolaires et des échanges universitaires entre nos deux villes. Il y a aussi des échanges citoyens qui impliquent des différentes associations de la ville. Et des échanges culturels comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Et nous, on est très heureux de pouvoir compter sur la participation d'acteurs associatifs de la ville, comme le Jardin Moderne, qu'on remercie d'ailleurs pour leur implication dans ce partenariat.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, comme vous l'avez évoqué, il y a déjà eu des rencontres passées en avril 2023. Et du coup, est-ce que... déjà, il y a une association qui est un peu équivalente à celle du Jardin Moderne à Erlangen, et même ces actions, en quoi elles consistent là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait, en fait, là-bas, à Erlangen?
Alors, le groupe, il y est allé surtout dans le cadre de ce festival-là.
Il y a juste eu ce groupe qui y est allé.
Il y a le groupe Kicks Mansion qui y est allé, et du coup, ça va être pareil cette année avec le groupe dont on va parler, Death Council. Nous, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'accompagnement qu'on peut proposer au groupe, on les a accompagnés. Il y a un de nos salariés qui est parti à Erlangen l'année dernière avec le groupe, qui est un technicien son, qui a l'habitude de la tournée, qui les a aussi accompagnés, parce qu'un groupe qui part à l'étranger, c'est pas anodin. Jouer sur un festival de découverte, c'est pas anodin. Et donc, du coup, il faut penser à tout ce qu'il faut penser quand on part en voyage avec des instruments de musique à 5-6 personnes. Qu'est-ce que c'est la vie de tournée? On a des horaires, on a des rendez-vous avec les gens qui nous ont accueillis à Erlangen, qui voulaient, j'imagine, faire... dans mon souvenir, il y a eu une visite de je ne sais plus quelle structure d'instruments de musique. Je me demande si ce n'est pas Thomann, des usines Thomann qui s'est passée là-bas. Il y a eu une rencontre avec la délégation Erlangen. Il y a eu donc ce festival-là, les balances, le soir du concert, enfin tout ce qui s'ensuit. Et tout ça, c'est des événements pour un groupe amateur qui sont très importants. Donc nous, dans le cadre de notre accompagnement, on propose de vraiment... les accompagner dans la production de ces événements-là, la prise des billets de train, qu'est-ce qu'il faut prévoir, voilà, on fait tout ça. Et on a Joachim qui bosse avec nous à l'accompagnement, qui s'occupe de tous ces aspects-là avec la ville de Rennes et Anouk à la ville de Rennes qui nous aide à porter ce projet. Et voilà, c'est déjà ce déplacement-là qu'on effectue. Et puis après, on accueille le groupe allemand à Rennes, un peu dans les mêmes conditions, mais sur un peu des visites différentes et puis des propositions un peu différentes.
Et est-ce que, outre les apports que ça apporte du coup à ce groupe qui est amateur et qui donc, à qui ça permet vraiment de se professionnaliser, que ce soit, comme vous l'avez dit, d'en faire des balances, etc. Est-ce que ça enrichit aussi les techniques de travail du Jardin Moderne? Est-ce que ça vous a permis de changer un peu vos façons de travailler? Ou alors, est-ce que vous avez des enrichissements particuliers
Ça ouvre les perspectives d'accompagnement, c'est clair. Parce qu'on n'a pas tous les jours la possibilité d'accompagner un groupe à l'étranger, encore une fois. Donc nous, ce qu'on fait sur la scène amateur qu'on peut accompagner, c'est qu'on va les sortir de nos studios de répétition pour leur proposer un certain nombre de choses. Soit de participer à des concerts, soit de faire une répétition publique, soit de faire ce qu'on appelle une résidence du travail scénique ou des choses comme ça. Mais accompagner un groupe à l'étranger, c'est encore autre chose. Donc ça a été ce partenariat-là. Il a permis aussi clairement de nous avoir une dimension européenne d'échanges internationaux sur de l'accompagnement des pratiques amateurs, ce qui est un beau projet quand même.
Et du coup, plus pour Simon Le Conturier, est-ce que il y a eu d'autres associations comme le Jardin Moderne qui ont bénéficié de ce sublage peut-être pas aussi poussé que le Jardin Moderne jusqu'à accompagner un groupe, mais
Oui, on essaye au maximum d'impliquer les associations de la ville. On peut citer par exemple le Cercle Celtique, qui est basé à Beauregard et qui envoie régulièrement des délégations dans nos villes jumelées et pas uniquement à Erlangen. Les Régates Rennaises aussi, qui est impliquée dans les 60 ans cette année. À Maurepas, c'est le Centre socioculturel des Longprés qui a participé au festival de la BD d'Erlangen au printemps dernier. Et donc, ouais, ça participe de la logique d'implication des citoyens. Et aussi, quelque chose qui nous est assez cher, d'impliquer les citoyens qui sont un peu plus éloignés de la mobilité. Ça passe aussi par les projets scolaires notamment et notre soutien aux projets entre écoles.
Et du coup, pour plus un peu revenir sur la soirée, il y a deux groupes qui ont été choisis, donc un groupe d'Erlangen et un groupe de Nuremberg, pardon. Bref, un groupe allemand, quoi. Et du coup, il y a un choix qui est revenu. Il me semble que c'était la même chose, le même genre musical. C'était, ouais. C'est du métal.
C'est du métal. Deux styles de métal différents, ouais. Mais on va
est-ce
en parler.
Est-ce que Après, moi, je ne m'y connais pas trop en métal, c'est plus ça, Héloïse. Héloïse qui s'y connaît en métal.
En plus, tu as choisi le jour où j'ai mis mon t-shirt Iron Maiden. Ouais, bah, l'Allemagne, terre de métal, Rennes, terre de métal. J'imagine que ça a pesé aussi dans le choix, peut-être. Parce que vous ne programmez pas que du métal, contrairement à ce qu'on peut penser au Jardin Moderne. C'est aussi important de le préciser.
Pas du tout. On a un gros lien avec les collectifs électro. On a un gros lien aussi à l'indie pop avec, encore une fois, je recite les Pichikai qui est un gros partenaire pour le Jardin Moderne. Mais là, effectivement, on a pas mal de groupes de métal qui travaillent dans nos studios. Et là, en l'occurrence, le choix du groupe allemand... Il s'est avéré que c'était un groupe de métal. Nous, il s'est avéré aussi que c'était un groupe de métal. Donc, on s'est dit, on va faire une soirée métal. Au moins, c'est plus clair.
Pur hasard, alors.
Et puis, c'était plutôt un hasard, ouais. Et ça nous tenait à cœur aussi, parce que l'année dernière, on a des événements où on pouvait inviter le groupe allemand sur différents événements que nous, on produit. Notamment, on a un événement qui s'appelle l'Open Garden où c'était possible de les inviter l'été. Mais pour des questions d'agenda, l'année dernière, ça n'avait pas pu se faire. Du coup, on leur avait proposé une répétition publique qui est aussi un événement sur scène, une proposition sur scène, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et là, on avait vraiment à cœur de proposer une soirée-concert gratuite, ouverte à toutes et à tous, et sur une esthétique cohérente avec les deux groupes. Donc, on s'est dit, on va faire un Oktoberfest métal et que ça marchera très bien comme ça. Et là, on est vraiment sur deux styles de métal en plus qui sont assez différents, mais qui se complètent bien. Là, Trading Shadow, le groupe allemand, c'est vraiment, on va être vraiment sur du metalcore, ce qu'on appelle du metalcore, avec des influences un peu à la Welsh Sleep, Landmarks, Parkway Drive, Architect, des groupes comme ça. Et sur Death Council, le groupe rennais, on va plus être sur un thrash un peu plus classique, death metal un peu plus classique. Alors on peut citer des groupes comme Gojira pour les fans de thrash et de technique instrumentale, ça va aller assez vite. Mais voilà, c'est deux styles qui se complètent très bien. Et pour les fans de musique extrême, ça peut très bien marcher.
Ouais, c'est donc un peu une ode à l'ouverture de tous les styles.
Tout à fait.
Et donc, en parlant d'ouverture, on va parler maintenant de... Enfin, bref.
Transition au top.
Transition, ouais. Transition frauduleuse. Donc, pour terminer, on a constaté que l'Allemagne, donc il y a 3 semaines, a remis des contrôles aux frontières. Et ce, pour la durée de 6 mois, en réponse... à la victoire de l'extrême droite dans des régions en Allemagne. Et donc en quoi est-ce que aussi bien pour la ville que pour le Jardin Moderne en général, en quoi cet événement il vous paraît important dans la construction de la citoyenneté européenne, de l'échange entre ces deux pays, ces populations, cet échange quoi.
L'un des premiers objectifs de la mise en place du jumelage, même si personne autour de cette table n'était présent à l'époque, était de réunir les peuples autour de la fraternité et la paix. Et c'est encore des valeurs qui sous-tendent nos relations avec Erlangen, qui sous-tendent nos relations avec toutes nos villes jumelées. On a porté à la ville de Rennes l'année dernière et jusqu'au printemps une initiative citoyenne européenne sur l'accueil digne des migrants. On a impliqué nos villes jumelées, dont Erlangen, et je crois en tout cas que nos villes, les villes de Rennes et d'Erlangen, sont unies sur cette thématique de l'accueil de la fraternité.
Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Michel Adouard ?
Moi, je compléterais par le fait que nous, le projet du Jardin moderne, il est basé sur l'ouverture, l'inclusivité, l'accueil de tous et de toutes. Et donc, le fait d'accueillir un groupe européen, allemand, sur une soirée, sur des musiques qui ne sont pas tant diffusées que ça, sur les grands médias, on l'a un peu vu avec les JO, là, on a eu du métal aux JO, mais ça n'arrive pas non plus tous les jours. Ben voilà, on trouve que c'est aussi une belle façon de répondre à un cloisonnement qu'on peut avoir sur différentes actualités politiques, on va dire ça comme ça. L'Allemagne en première, mais la France n'est pas très loin, hein, loin de là. Et donc, du coup, on est plutôt content de faire ce petit pied de nez aussi à l'actualité.
Oui, c'était très important. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu répondre à mes questions. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Oui, merci. Pour rappel, donc la soirée demain, ça commence à quelle heure ?
18h30, on a une bière spéciale, c'est gratuit, et il y a plein de métal, ça va être super.
Le métal, vecteur d'amour entre les peuples, on adore. Merci à vous. Le chef du parti du Hezbollah a trouvé la mort ce week-end suite à une frappe israélienne. Anthony, bonsoir.
Bonsoir.
Tu vas nous parler du Hezbollah et de ses rapports avec les partis politiques du pays du Cèdre, mais aussi du rôle que joue l'organisation au Liban et de ses influences sur le gouvernement de ce pays.
Oui, en effet, mais dans un premier temps, il faut définir ce qu'est le Hezbollah. À sa création, en 1982, le Hezbollah a juré fidélité à l'ayatollah Khomeini, alors guide de la révolution iranienne, prônait la mise en place d'un régime islamique et appelait à l'expulsion des États-Unis, de la France et d'Israël du territoire libanais, ainsi qu'à la destruction de l'État d'Israël. Le Hezbollah est un parti politique d'obédience d'islam chiite, soutenu et en partie financé par la République islamique d'Iran. Ce parti politique est bien ancré au sein du Liban. Il est surtout présent dans le sud de Beyrouth, qui est la capitale du Liban, mais aussi dans le sud du Liban, où une communauté de population et de confession chiite. Dans cette région de la plaine de la Bekaa, il y a des montagnes, mais il y a aussi la ville de Baalbek, fief incontesté du Hezbollah. Les accords de Taif de 1989 ont mis fin à la guerre civile libanaise débutée en 1975. Depuis ces accords, le Hezbollah a toujours été réticent pour gouverner au sein du Conseil des ministres du Liban. Mais la donne a changé en 2005, première élection libre depuis la guerre du Liban. Cette année-là, le Hezbollah intègre le gouvernement avec trois ministres issus ou proches de lui. Mohamed Fnech, ministre de l'énergie, Trad Amadé, ministre du travail, et Fawzi Salouk, ministre des Affaires étrangères. Le Hezbollah est désormais actif au Conseil des ministres pour renforcer son intégration au sein du champ politique libanais. Le Hezbollah jouissait d'une certaine popularité dans le monde arabo-musulman du fait de ses actions au Liban du Sud contre l'armée israélienne et ses attaques contre le territoire israélien. Mais depuis son intervention militaire dans la guerre civile en Syrie et aux côtés de l'armée syrienne, il est contesté dans le monde arabe sunnite et par une partie du Liban. Il ne faut pas oublier que l'armée syrienne occupait le territoire libanais jusqu'en 2005. A noter également, le Hezbollah est placé sur la liste officielle des organisations terroristes de nombreux pays et tenu pour responsable de nombreuses prises d'otages d'Occidentaux, principalement des diplomates et journalistes, ainsi que des soldats israéliens.
Merci Anthony. Mais j'ai l'impression que notre téléphone sonne, non ?
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Mais oui, ça sonne, mais ça nous plaît que ça sonne. Continuez à nous appeler, je refais passer le message. Si vous avez d'ailleurs un message à nous faire passer, un fait marquant près de chez vous, une déclaration d'amour ou un coup de gueule, ou alors un retour sur nos reportages, laissez-nous un message vocal au 02 30 96 25 35. Il sera peut-être diffusé à l'antenne. Merci à Eva pour la technique. Vous ne le voyez pas de l'autre côté de la radio, mais on a une grosse vitre entre le studio et la régie. Eva vient de la franchir. Elle est passée du micro du studio au potard de la régie. Et c'était super. Merci beaucoup, Eva. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de 6 heures avant minuit. Allez, salut!
Sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.